maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà jusqu'ici notre lecture. Vous savez que ça fait déjà quelques semaines que je fais un suivi de prédications. Tout d'abord, j'avais prêché sur l'appel, le choix de Dieu pour l'onction de David, pour voilà, qu'il devienne roi, pour qu'il puisse remplacer le roi Saül. Après, nous avons vu aussi l'épisode de David et Goliath. Et là, ce sera donc troisième prédication. Le titre, c'était David dans la caverne d'Adullam. Donc, avant, quand même, j'aimerais vous dire un petit contexte. Voilà, après la victoire de David sur Goliath, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Tout d'abord, après la victoire contre Goliath, David devient quelqu'un de très important pour le pays. Et il devient même un leader militaire sous Saül. Et il remporte de nombreuses victoires. Voilà, donc il devient beaucoup plus populaire. Déjà, rien qu'avec la victoire contre Goliath, il était devenu populaire. Imaginez, on ne connaît pas encore le nombre exact des soldats présents au moment de cette confrontation entre David et Goliath, mais on peut penser à peu près des milliers de personnes. Donc ces milliers de personnes rentrées chez eux vont aussi parler de cette victoire David contre Goliath. Et donc, à mon avis, tous les villages et tout le pays étaient au courant de cette grande victoire de David. Il était devenu très, très acclamé. En tout cas, quelqu'un assez populaire. Et en plus, il remporte des victoires contre d'autres peuples. Là, il devient encore quelqu'un à aduler. D'ailleurs, il chante ainsi Saul, donc Saül, a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc c'est comme si, il est beau, enfin c'est très comparatif. Hein. Donc le peuple est en train de comparer entre le roi Saül et David, le petit David. Si à votre place, si vous aviez entendu ce genre de phrase en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous auriez senti? Bon, Anselme est là-bas. Hein? Imagine Anselme, pour ta consultation, tu reçois une personne et ton collègue, il reçoit 10 personnes, quoi. Parce que tout le monde pense que ton collègue est meilleur que toi. Ça aurait été gênant, en tout cas. Mais en fait, il dénigre pas forcément Saül. Il dit quand même que Saül a frappé ses 1000. Hein? Sauf que David, lui, il frappe les 10 000. Donc, on voit quand même que le peuple apprécie davantage David plutôt que Saül. Et Saül commence à être jaloux de ce qui se passe. Saül devient de plus en plus jaloux de David au point de tenter de le tuer en lançant par exemple sa lance contre lui à deux reprises. Cette comparaison, il aimerait en tout cas le tuer. D'ailleurs, il change David de temps en temps au cours de ça dure sur plusieurs années. Il change David de temps en temps. À ce moment-là, David revient. Il mange à table avec le roi, etc. Donc, il y a eu ce changement. Après la victoire de David sur Goliath, il y a eu encore d'autres événements. Les fils ou les enfants de Saül apprécient, aiment David. Jonathan, le fils du roi Saül, développe une profonde amitié avec David, au point que voilà, il fait une alliance avec lui. Jonathan, qui est le fils du roi, il apprécie vraiment ce David, et il lui donne aussi même son manteau, son armure, ses armes, etc. On voit vraiment un lien étroit qui a été, enfin, une amitié vraiment très profonde entre Jonathan et David. Je ne sais pas si vous avez ce genre de personnes à vos proches, enfin parmi vous. Moi, si, je me suis rappelé que voilà, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un ami avec qui je pouvais prier chaque semaine, je pouvais tout partager avec lui, etc. C'est vraiment important d'avoir un ami fidèle avec qui on peut partager, on peut prier ensemble. Et c'est ce que David et Jonathan avaient fait. Et puis, l'autre fille, donc Michal, elle aimait David. Un jour, vous savez que, je ne sais pas si je vous rappelle que avant la confrontation entre David et Goliath, on avait promis que celui qui gagnerait contre Goliath allait se marier avec la fille du roi. Sauf que Saül avait promis de donner sa fille aînée en mariage et il la donne à un autre homme. C'est compliqué, c'est une situation compliquée. Ensuite, Saül, le roi Saül, apprend quand même que sa plus jeune fille, Michal, est amoureuse de David. Donc, normalement, il aurait dû lui donner sa fille directement, mais il lui donne une condition pour que il a déjà normalement toutes ses qualités pour se marier, puisqu'il y a eu une promesse et que, comme il a accompli, il a battu Goliath, il aurait dû prendre sa fille. Mais là, il dit que non, il donne une certaine exigence. Il dit qu'il faut rapporter des prépuces de 100 philistins. Donc, il faut tuer 100 philistins. Il met cette condition parce qu'il était jaloux, parce qu'il voulait le tuer, justement. Indirectement, pas par lui, il avait déjà tué, enfin il a déjà essayé directement, mais en tout cas ici, il veut tuer David indirectement. Au lieu d'apporter les 100 prépuces, ben, en fait il tue 200 personnes. Et donc, il y a eu plein de persécutions de la part de Saül après. Et donc là, après avoir su tout ce que Saül manigançait, il prend fuite. D'ailleurs, sa femme, il se marie finalement avec Michal et sa femme l'aide à s'enfuir. Et puis, une autre fois, c'est l'autre fils, Jonathan, qui lui avertit que son père veut le tuer. C'est pour ça qu'il est en fuite aussi. Et donc, dans ce contexte, on arrive dans le texte d'aujourd'hui, chapitre 22, où voilà, David, parti de là, se sauva dans la caverne d'Adullam. Il est seul, il est pourchassé. Saül veut le tuer. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. En tout cas, pendant un certain moment, il était tout seul. Adullam est un lieu de refuge. Est un lieu de refuge. Qu'est-ce que vous faites dans un lieu de refuge? Normalement, on se repose. On est protégé, on est en paix normalement. Je ne sais pas si vous avez aussi des lieux de refuge. La maison du grand-père de Laetitia, donc ma femme, s'appelait, dans sa maison, devant sa maison, il y avait marqué « Le refuge ». Pourquoi le refuge? Parce que la famille est un lieu de refuge. Et aussi parce qu'il accueillait beaucoup de personnes. Et donc, il accueillait souvent aussi des vagabonds. Il y avait des gens de la rue vivaient à un certain moment avec les parents de Laetitia, hein, parce que voilà, le grand-père les avait accueillis à la maison, hein, etc. Oui, c'est un lieu de refuge où on peut se sentir bien. Adullam était devenu un lieu de refuge pour David qui était pourchassé par Saül. Et il trouve refuge dans cette caverne. Et non seulement ce lieu était un abri physique, mais aussi un abri spirituel où il se ressource. Mais il est seul, fuyant pour sa vie. Et puis, mais malgré tout, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Il devait se dire, mais Seigneur, c'est pas moi qui a voulu être oint par toi. C'est pas moi, enfin moi je voulais pas non plus permettre que ton nom soit terni. Donc je me suis avancé pour battre ce Goliath. C'est pas moi qui a fait que, voilà, il aurait pu vraiment donner plein de choses. Et pourquoi je suis pourchassé? J'ai jamais fait de mal contre le roi Saül. J'ai jamais voulu prendre sa royauté tout de suite. Mais voilà, à cause de la jalousie, Saül le pourchasse. Mais malgré tout, voilà, il a pu trouver cet endroit qui s'appelle Adullam. Vous voyez un peu l'endroit, hein, c'est un lieu à visiter. Dieu avait un plan pour lui. Parfois, nous pouvons aussi traverser des épreuves, des persécutions, ou on peut traverser aussi des moments de profonde détresse. Mais sachez que Dieu aussi réserve un certain Adullam sur notre chemin pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse se ressourcer davantage. Parfois, les vacances peuvent aussi être un moment de ressourcement pour chacun d'entre nous. Alors, dans Psaume 46, il est dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, Dieu est pour nous, pour vous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis, cet endroit, donc Adullam, est aussi un lieu de formation. Lorsque David arrive à Adullam, il n'était pas seul longtemps, puisque ses frères et toute la maison de son père arrivent. Et environ 400 hommes arrivent pour le rejoindre. Ils sont souvent endettés ou en détresse ou parce qu'ils sont mécontents de la royauté de Saül. Donc des gens assez critiques aussi. Ce sont des gens marginaux, rejetés par la société qui arrivent pour se rassembler, pour suivre le petit David. Imaginez, vous êtes en fuite, et il y a des gens qui arrivent vers vous pour que vous puissiez prendre en charge. Comment vous allez vous sentir? C'est un fardeau, ça pourrait être aussi un fardeau. Comment dans le désert ils pourront se nourrir, hein? Il faut aussi trouver un moyen pour se nourrir, etc. C'était difficile, mais David, en tout cas, a appris à gérer toutes ces personnes. Ces 400 personnes deviennent encore plus nombreux par la suite aussi. Et j'aimerais peut-être donner un petit exemple des personnes qui ont rejoint aussi David. Vous savez, à un moment donné, dans la fuite, David va à Nob. Il se rend à Nob où se trouve aussi le prêtre Ahimelech. Il ne dit pas à ce prêtre qu'il est en fuite ou qu'il est persécuté par le roi Saül. Mais il lui dit que je suis de passage et j'aimerais manger un peu de nourriture. J'aimerais aussi avoir une arme. Alors, Ahimelech, qui est le prêtre, tout innocent, il lui donne le pain consacré et puis l'épée de Goliath. C'est normal, hein, c'est lui qui a battu Goliath, donc il lui donne l'épée de Goliath. Il n'avait pas d'arme à ce moment-là, pendant la fuite. Et puis, quelques temps plus tard, le roi Saül apprend que David et ses hommes ont été vus et que, à Nob, il a pu avoir de l'aide pour manger et aussi pour prendre l'épée de Goliath. Il se met en colère, il devient furieux. Et puis, le roi Saül ordonne de tuer le prêtre. Beaucoup de prêtres, donc il tue 85 prêtres, ainsi que les habitants de Nob. Un seul prêtre, Abiathar, s'échappe et rejoint David. Donc imaginez un petit peu le péché que le roi Saül a pu commettre contre Dieu, mais aussi contre les hommes. Il n'a pas vu vraiment. La jalousie l'a complètement aveuglé et il est en train de encore aller dans une perdition complète. Et puis, celui qui a aidé innocemment, il a été tué. Seul Abiathar, un des prêtres qui a survécu, s'échappe et rejoint David. Donc vous pouvez vraiment imaginer les gens qui sont dans le malheur, qui rejoignent David. Ce n'est pas des gens riches, qui sont stables, non. C'est vraiment des gens qui sont dans le malheur, qui ont tout perdu souvent, ou encore qui n'ont rien à perdre de rejoindre David. Et là, il doit apprendre avec ces personnes, souvent marginaux, il doit apprendre à les gérer, à les diriger, et aussi apprendre à devenir un bon leader de tout ce groupe. Et ce temps a permis à David de se former davantage, à compter sur Dieu, à persévérer dans son leadership aussi. Et malgré en tout cas, et puis il a pu surtout faire en sorte que tous ces marginaux deviennent des soldats. Parce que c'est avec ces gens-là qu'il va aider aussi son peuple, d'autres villages. Dans Jacques 1, il est dit que « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Il a appris la persévérance. Adullam était un lieu où il a appris la persévérance, mais aussi un lieu de formation. Adullam est aussi un lieu de transformation. Ceux qui sont venus, comme je vous avais dit, ils n'étaient pas des guerriers qualifiés, mais ils sont devenus vraiment des gens transformés. Ils sont devenus des soldats de David, etc. Oui, parfois, lorsque nous prions au Seigneur, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons, mais parfois il donne autre chose pour que nous puissions aussi les utiliser. Et puis d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 1, 27-28, il est dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Oui, Dieu peut transformer aussi les faibles pour les rendre forts. Dieu transforme nos vies. Dieu nous appelle aussi à croire en sa puissance. Vraiment. J'aimerais vous faire lire aussi dans Psaume 142. Le psaume 142 parle, en fait, est un poème de supplication écrit par David aussi. Et ce psaume est souvent associé à l'époque où David se cachait donc dans la caverne. Et là, probablement, on pense que c'est la caverne d'Adullam. Et dans ce lieu de solitude, dans ce lieu de peur, de désespoir, David donc exprime ses sentiments. Est-ce que c'est vraiment très intéressant de savoir, mais comment David aurait pensé dans cette grotte? Qu'est-ce qu'il avait pensé par rapport à Dieu, par rapport à toutes ces situations? Et là, David, on voit dans ce psaume que David lève les yeux vers Dieu. Il exprime sa douleur. Et vraiment aussi, on voit bien que sa confiance grandit de plus en plus. Vraiment, ce psaume est un rappel puissant que dans nos moments les plus sombres, Dieu entend nos cris, nos voix. Dieu voit nos situations et nos larmes aussi. Et aussi, il reste vraiment pour nous un vrai refuge. J'aimerais vous lire les deux premiers versets. Donc, voilà, un cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Voilà, il est seul. Il est seul dans cette grotte. Et David est vraiment dans l'épreuve. Et dans cette situation, il commence par crier à l'Éternel. ils ne restent pas en silence. Non, de tout cœur, ils commencent à crier à l'Éternel. Il répand sa plainte, il expose sa situation, il partage même ses émotions avec Dieu. Et dans ce cri, on voit vraiment l'humanité de David. Voilà, il est accablé, il est isolé, il est dans la solitude profonde, il se sent vraiment dans la détresse totale. Et là, il sait qu'il ne peut que se plaindre auprès de Dieu. Et comment vous faites, vous, dans ces moments-là? Dans ces moments où vous êtes complètement accablé par les événements? Ça vous dépasse complètement, même si Dieu nous donne la force pour surmonter les épreuves qu'on peut assumer, mais parfois on a l'impression que les épreuves que nous traversons, ça nous dépasse complètement. Et comment vous réagissez? Il y a certaines, tout à l'heure on a parlé de, voilà, des enfants qui se sont repliés sur soi-même, qui sont dans le silence, qui ne partagent pas. Ce n'est pas forcément une bonne solution. Parfois, oui, il y a un temps pour rester dans le silence, mais dans ces moments de détresse, de désespoir, ce qu'il faudrait faire, bien sûr, c'est discuter comme David, de parler, de crier haut et fort à David, comme David, pour, voilà, chercher des solutions, pour crier, pour exposer tout simplement, pour pleurer aussi devant Dieu. Parfois, souvent, nous essayons de trouver des solutions de manière, avec nos propres moyens. Mais Dieu est là, présent. On sait ça, mais on ne le fait pas. Versets 3 et 4, j'aimerais vous lire encore. « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Et tout refuge est perdu pour moi. Personne ne prend souci de mon âme. » Voilà, il est complètement délaissé par les autres. Même, ils ont tendu un piège. Ils ont tendu un piège pour l'abattre. Il est dans la détresse. Il est complètement seul, dans la solitude totale. Il est abandonné. Mais malgré tout, voilà, il exprime ce sentiment de détresse devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur. Et c'est vraiment important de crier haut et fort notre situation, les circonstances où nous sommes. Et puis, verset 5, voilà donc une prière de délivrance, Seigneur. C'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Dieu est son refuge et son partage. C'est une sorte de déclaration de foi au milieu de la crise. David reconnaît que Dieu est la seule sécurité, son seul abri, notre seul refuge. Verset 6, « Sois attentif à mes cris. Seigneur, écoute ma prière, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Oui, il sait très bien que par ses propres forces, il n'a pas, en tout cas, les moyens pour confronter à toute cette armée du roi Saül. Mais il sait qu'il peut compter sur Dieu. Au verset 7, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. » Là, David termine ce psaume avec une note d'espoir. Il demande à Dieu de le libérer de sa situation et il dit qu'il voit que Dieu peut faire. Et puis il aimerait justement, après avoir expérimenté ce miracle, il aimerait aussi louer le Seigneur. J'aimerais conclure. David, après une grande victoire contre Goliath, il a connu un moment assez triste. Vous savez que si on ne connaît pas exactement la durée de son errance, mais on peut estimer à peu près une bonne dizaine d'années, même voire plus. Et puis, même après la mort du roi Saül pendant la guerre, pendant la bataille, il n'est pas devenu roi tout de suite. C'est quand même encore quelques années que la famille royale de Saül a pris en charge. Donc sa durée de vie de désert était quand même assez conséquente. Malgré tout, il a été persévérant. Et puis sa confiance était vraiment inébranlable. Sa confiance en Dieu était inébranlable. Pourquoi je vous ai partagé cette caverne d'Adullam? C'est tout simplement parce que nous avons aussi besoin d'un abri où nous pouvons être ressourcés, nous pouvons être transformés par la grâce de Dieu. Nous pouvons préparer aussi pour notre futur règne. Savez-vous que nous allons aussi régner un jour avec le Seigneur? Et c'est important aussi de se préparer sur cette terre. Que vraiment, Dieu utilise aussi les périodes de joie, mais aussi une période d'épreuve pour forger notre caractère, pour nous enseigner, pour nous préparer aussi à accomplir sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et nous savons aussi que tu réserves aussi un lieu de refuge lorsque nous sommes dans la persécution, lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous nous sentons seuls, accablés, dans la détresse. Que nous puissions vraiment lever nos yeux vers toi dans ces moments-là. Tu vois que ce matin, nous avons entendu beaucoup de témoignages des gens qui ont vécu des épreuves, qui sont toujours dans les épreuves. Et c'était juste une esquisse de ce qui se passe dans notre Église. Et nous savons aussi que, nous avons besoin de toi. Vraiment étant ta main bénissante dans ces moments difficiles, pour que nous puissions lever nos yeux vers toi, crier et recevoir de toi vraiment ta grâce, que tu puisses vraiment nous faire du bien, Seigneur, aussi. David a été patient. C'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu roi. Il a connu pendant des dizaines d'années des moments difficiles où il a failli mourir plusieurs fois. Mais tu as été toujours présent. Tu as été toujours présent et tu l'as façonné à ton image. Tu l'as préparé aussi pour son ministère en tant que roi. Et même après être devenu roi, les épreuves ont continué aussi, Seigneur. À chaque fois, il a pu traverser, il a pu surmonter. Seigneur, nous savons que les épreuves sont toujours présentes dans notre vie, même sur notre chemin. Mais que nous puissions, comme ce psalmiste, comme ce David, crier haut et fort notre situation, que nous puissions vraiment avoir une relation intime avec toi pour être à ton écoute, pour être proche de toi, pour entendre ta voix, pour aussi, surtout, mettre en pratique ce que tu nous demandes, sur ce que tu nous recommandes, Seigneur. Merci encore pour cette parole qui nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés seuls, mais tu es présent. Oui, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette promesse qui se réalise toujours encore aujourd'hui, puisque tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Encore, accompagne-nous encore cette semaine, que nous puissions encore vivre une vie victorieuse avec toi cette semaine. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Voilà.